Elle aime les petites histoires qui se cachent derrière les grandes pierres. Ainsi, pour notre retour, nous recevons Elodie, médiatrice culturelle, passionnée et créatrice de contenu sur Instagram avec la page Elodie Guide Local, suivie par près de 20 000 amoureux de Rouen et de son patrimoine. Depuis 2023, Elodie partage avec enthousiasme les anecdotes de sa ville, souvent contées de son conjoint, Pierre. Mais au-delà des légendes et des monuments, nous parlons aussi du sujet de l'accessibilité culturelle pour les personnes en situation de handicap avec cette question en filigrane. La culture est-elle accessible à tous ? Entre coulisses de son métier, engagement et amour pour Rouen, plongez avec nous dans son quotidien de guide passionné. Bonne écoute.
C'est un peu comme le soleil armant ces derniers temps, me direz-vous. Ça fait longtemps que vous nous attendez. Eh bien, ça y est, on est de retour. Et ce n'est pas, mon cher Florian, pour vous jouer un mauvais tour, n'est-ce pas ?
Bonjour Florian. Bonjour Brian.
Et bonjour Elodie Grand-Cyr.
Bonjour.
Alors, on va expliquer donc pourquoi on est là. Donc pour cette, ce n'est pas une nouvelle saison, c'est une nouvelle série d'épisodes. On commence donc avec Hello Guide Local, plus précisément enchanté, et on est vraiment ravis de te recevoir. Donc merci. Ici à Rouen, comme je l'ai dit, sous un décor toujours aussi fluidieux. Alors, la première question qu'on a envie de te poser, bon, ton métier n'est pas météorologue, mais il revient quand le soleil?
Eh ben, j'aimerais bien qu'il arrive vite, puisque les visites sous la pluie.
Ben justement, on va y revenir, et c'est ma première question. Est-ce que c'est sympa de guider sous la pluie, ou c'est différent?
On s'adapte, on explique que ça fait partie de la Normandie et oui. Que si vous venez visiter la ville de Rouen, bah faut s'y attendre. D'ailleurs, sur mon annonce, tu verras marqué « a lieu même s'il pleut » parce ouais. Qu'au début, j'ai commencé à annuler les visites et je me suis rendu compte qu'en fait, il valait mieux pas. Donc,
Sinon, t'en annulerais tous les jours, ça serait plus là.
Bah là, ces derniers temps, oui, t'en annules tous les jours.
Exactement. Donc, oui, même sous la pluie, c'est pas grave.
Bien, j'ai envie de dire, quel joli parcours, hein, quand on regarde ta page Instagram, ça monte en flèche. Question brève avant d'aborder ton histoire personnelle, comment tu le vis ce succès soudain?
Bon, à la fois, on est très contents parce que c'était l'ambition qu'on avait avec Pierre, c'était d'intéresser monsieur, madame, tout le monde, mais dans le bon sens du terme, à la culture et à sa ville, etc. Donc là-dessus, c'est réussi et on est super contents. Et d'un autre côté, il y a eu un petit vent de panique parce que du jour au lendemain, on s'est mis à recevoir des milliers de mails, de messages, etc.
Donc, comment ça se passe à ce moment-là? On reçoit des centaines de sollicitations,
possiblement
de médias, de partenaires.
Médias, collaborations commerciales, des gens qui veulent savoir comment réserver. Enfin, plein de choses qu'on a envie d'accepter, mais sur le moment.
On ne peut pas accepter toutes les sollicitations, étaient sous le régime de la micro-entreprise.
Exactement.
Et pour revenir sur ton parcours personnel et ton histoire, c'est une reconversion, c'est ça? Tu faisais quoi avant? Explique un petit peu ton parcours.
J'ai un parcours un peu atypique. Ouais. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Ensuite, j'ai poursuivi avec des études d'histoire. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai saisi une opportunité. Je suis partie travailler dans le commerce. Donc voilà, je fais des écoles d'esthétique, travailler dans des grandes enseignes de cosmétiques. Ouais, rien à voir. Jusqu'à un burn-out. 2 ans. Et donc là, je me suis dit qu'il est temps de renouer avec ce que j'aimais, de faire ce qui m'anime en fait depuis toujours. Donc, j'ai lancé mon auto-entreprise toute seule quand j'étais au chômage et perdue. Je ne pensais pas en arriver là aujourd'hui et je suis super fière du parcours.
Je pense que tu peux parce que c'est franchement un parcours
c'est gentil.
Admirable. Il y a aussi ce déclencheur que tu racontes d'une visite à Prague, c'est ça,
avec une
guide qui n'est pas au niveau et qui ne t'emballe pas franchement.
C'est ça, c'est que je suis tombée sur une guide qui décrivait beaucoup ce qu'il y avait autour de nous. Malheureusement, j'avais besoin d'en connaître un peu plus. Et donc, en rentrant, c'est ça, je me suis dit... Il faut faire ça sur Rouen. Il faut leur expliquer plus de choses.
Et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es dit sur Rouen, quand tu t'es dit, il n'y a pas de quelque chose de semblable qui peut être fait pour intéresser, par exemple, un certain public, des plus jeunes à la culture. Parce que ça, c'est un sujet dont on parlera, justement, un petit peu plus tard dans l'émission.
J'ai regardé déjà ce qu'il y avait sur les plateformes et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de visites à thème, Jeanne d'Arc, les Vikings, etc. Et très peu de visites générales. Et finalement, quand on est touriste et qu'on arrive dans une ville, on veut une vision globale de la ville, connaître à peu près les monuments les plus importants, mais on n'a pas besoin de se spécialiser sur un sujet. Donc, j'avais l'impression de proposer une autre offre. Et j'avais l'impression aussi de me différencier des offres un peu plus institutionnel, en étant un peu plus à la cool, plus dans l'échange, etc. Bien que, en fait, c'est le guide qui fait la différence.
Mais est-ce que, justement, est-ce que toi, tu as créé ta page Instagram à ce moment-là?
Oui.
C'est ça, directement?
J'ai créé ma page à ce moment-là parce que c'était la contrainte pour s'inscrire sur les plateformes comme TripAdvisor ou Get Your Guide. Ouais. C'était d'avoir un site internet. J'avais pas de site, donc j'ai créé une page Insta avec deux photos et j'ai envoyé
et
ça.
Et j'imagine qu'on n'a pas les premières réservations tout de suite. On patauge un petit peu avant.
Ouais, c'est ça. J'ai lancé, du coup, pendant l'Armada, j'ai lancé cette page. Je me suis dit que ça allait pas marcher et finalement, réservation dès le lendemain matin. Panique à bord. Moi, je faisais ça pour me sentir mieux, me sortir de tout ça, etc. Et finalement, du coup, il y a eu une première visite et après, ça s'est enchaîné plutôt bien.
Et tes premiers clients étaient français ou étrangers?
Mes premiers clients étaient français. Par contre, c'était des experts de Rouen. Voilà, ils en étaient à leur cinquième visite guidée de la ville de Rouen. Donc, peut-être qu'ils en savaient plus que moi à ce moment-là, en tout cas.
Tu faisais des visites en anglais et bientôt en italien.
Oui, c'est ça.
Tu peux parler d'italien, non?
On pense.
Ah. Espero que non est... Troppo complicato, sto parlando un po' d'italiano. Mais non, blague à part, justement, en fait, on y reviendra. Moi, j'aimerais poser une question un peu cash comme ça, parce que j'aime bien poser ce type de question.
Là.
C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec justement ton succès qui arrive. Est-ce que le modèle classique des offices de tourisme, c'est-à-dire où on va chercher une carte de la ville, demander où est morte Jeanne d'Arc, qui n'est même pas morte, place du Vieux, d'ailleurs, mais bref. Est-ce que ce modèle-là d'office de tourisme est mort ou est-ce qu'il peut se renouveler d'une autre manière? Est-ce que vous avez pris le pas?
Non, il peut se renouveler. Je pense que les gens ont besoin de choses plus décontractées. Aujourd'hui, les offices du tourisme, les musées, etc., proposent des choses très chargées en informations qui rebutent, je pense, les gens qu'on veut capter, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ces lieux culturels. Ouais.
Parce que j'ai une, Florian, là, justement, une question très intéressante sur le sujet. Donc, à toi, Vandani.
Depuis le Covid, est-ce que la manière de consommer des produits culturels a-t-elle changé?
Donc, moi, pendant le Covid, j'étais esthéticienne. Donc, à vrai dire, j'ai pas perçu le changement. Mais je pense quand même qu'il y a un vrai retour à l'échange humain.
Ouais.
Et finalement, on a beau promouvoir les téléphones, les flashcodes, les trucs digitalisés, et je ressens quand même que les gens qui viennent me voir ont besoin d'un échange, quelque chose de vrai.
Et tu as un public que tu dirais plutôt... C'est quoi ta cible? Pas ta cible sur Instagram, ta cible de personnes que tu guides.
Avant que je lance les vidéos sur Instagram, c'était, on va dire... 40, 70 ans. Depuis les vidéos Instagram, les gens que je rencontre en visite sont de plus en plus jeunes, très chouettes.
Ah, mais c'est ça qui est vraiment bien. Parce que c'est ça, moi, là, c'est une partie un petit peu solo, mais c'est juste une impression. Faut toujours trouver le moyen, en fait, d'amener les gens à la culture. C'est pour ça que je trouve ce que tu fais à ce titre, ce que fait aussi Samstine, est formidable en tout point. Parce que c'est vraiment le but. Moi, j'entends en permanence dire dans la presse, quand tu es assommé par des titres de journaux qui te disent « les gens ne vont plus au musée, les gens ne font plus ci, ils ne font plus ça, ils ne vont plus là », et de voir que d'une certaine manière... Alors oui, effectivement, quand on regarde des chiffres, il y a une baisse de fréquentation de pas mal de musées, c'est la réalité de la chose. Ouais. Mais je pense qu'on consomme la culture aussi...
Les gens consomment différemment.
Consomment de la culture de manière différemment, peut-être depuis le Covid ou pas. Oui. D'ailleurs, je... Et moi, il est trop tôt de dire si le Covid a forcément un lien avec tout ça. Mais je trouve ça absolument passionnant de rencontrer des personnes comme toi qui font aimer la culture à leur manière et leur proposent un média sur lequel ils n'auraient pas eu accès ou l'envie de s'intéresser, tout simplement. Sur la partie plus création de contenu et digital, c'est à toi.
Comment t'es venue l'idée de faire du contenu sur les réseaux sociaux?
Donc, c'est pas de moi, cette idée. C'est plutôt de Pierre. En fait, Pierre et moi, on voyage pas mal et il me filme toujours parce que je le traîne dans des lieux culturels où il n'a pas forcément envie d'aller. Et du coup, il me pose plein de questions, parfois très bêtes. Est-ce qu'ils avaient mal quand ils prenaient un coup d'épée?
Alors, c'est intéressant, tu me permets de rebondir. C'est ce qu'il fait naturellement, même
ah
pas
oui,
caméra. Voilà,
comme ça, voilà. On s'en est gardé quelques-unes d'ailleurs.
Parce que quand on parle de Pierre, même c'est ton conjoint, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Qui t'accompagne dans les vidéos et qu'on entend poser les différentes questions, en fait. C'est lui qui pose ces questions et je trouve que c'est ça aussi qui fait... C'est lui aussi qui fait marcher. Ça donne tout un charme et toute une touche tes vidéos et je pense que ça contribue vachement à ton succès.
Projet, finalement, c'est lui qui l'a lancé parce que toutes ces vidéos, on les a récoltées. On avait 500 abonnés, on l'a mis en story, on a fait un petit sondage parce que ça vous plairait d'en voir plus. Ça a été unanime et du coup, on a démarré chez SDO Canada.
Tu comptes faire que du contenu sur Rouen ou dans toute la région de Normandie?
Région Normandie et plus encore parce qu'on voyage beaucoup en Italie.
Oui.
Et du coup, il y aurait peut-être du contenu à venir un peu partout.
Moi, je voudrais l'histoire détaillée de la peste noire.
Il y a plein de choses.
Mais c'était ce qu'on disait, la manière aussi que tu peux trouver pour te diversifier, tout simplement. C'est-à-dire, oui, autre chose en Normandie ou ailleurs, je pense que un certain public pourra te suivre dans des péripéties. En tout cas, ce sera notre cas.
Ouais, pour l'instant, Rouen, mais effectivement, si on peut...
Mais question bête, parce que j'avoue ne pas le savoir, tu es normande de base ou tu es...
Je suis née à Vernon.
Ouais. Ok. Ouais.
Dans le 27, dans l'heure.
Dans le 27.
Parce que ce qui est... Bon, on arrête l'interview. Non, et ce que je trouve assez fascinant, c'est ce que je me disais en préparant ton interview, c'est que je crois que je dois avoir... J'ai fait un tour de France en covoiturage, mais sur les quelques 120 000 photos que j'ai de toute la France, je dois en avoir environ 40 000 armants.
Mm-hmm.
Ce qui est vachement bien, c'est que grâce à toi, mais d'autres aussi, on peut encore en apprendre. C'est-à-dire, t'es là et t'en apprends toujours.
Ouais.
Et c'est ça qui est vachement formidable parce que il y a des gens qui arrivent et qui me disent, mais t'es blasé de Rouen, non? T'as pris des photos partout dans la ville, à chaque centimètre carré, t'as pris quelque chose, etc. Bah non, en fait. Ouais. T'apprends toujours quelque chose et ça, c'est cool, franchement.
Et par rapport à ça, comment tu prépares tes anecdotes historiques sur chacune de tes vidéos?
J'ai une liste de sujets que j'ai envie de présenter. Pierre me valide, entre guillemets, c'est-à-dire, non, ça, c'est trop chiant. Ça, oui. Et celui qui a ce regard, en fait, ça va pas intéresser. Ça, c'est trop sérieux. Enfin, bref, il y a un petit tri qui était comme ça. Et puis ensuite, c'est un travail de recherche dans les livres, sur Internet, les rapports de fouilles, plein de petites sources. Et finalement, on essaie de faire quelque chose de concis et de développer plus à l'écrit pour ceux qui veulent en savoir plus en déroulant la livre.
Il y a un point que j'aimerais aborder parce que je trouve que c'est super important pour que les personnes en fait se rendent compte de ce qu'est la création de contenu en général. Combien de temps, parce qu'on a envie de parler en fait de tout ce que tu peux produire et plein de choses, mais combien de temps tu mets à réaliser tes réels? Ça te prend combien de temps environ? Un réel.
Temps de recherche. Je sais pas, ça peut être... Si j'ai trouvé le bon livre, en fait, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre une semaine et je peux tiquer sur un sujet. Donc ça dépend. Temps de tournage, si on s'engueule pas, ça peut aller très vite.
Ça me fait penser avec ma femme. En même temps.
Si on s'engueule, ça peut être très long. Montage et de sous-titrage est très long.
Ouais.
Donc franchement, on passe une journée... Je parle que du création de vidéos, pas de recherche.
Oui.
Une journée entière dessus pour faire deux vidéos pour la semaine.
Ouais.
Ah, tu tournes deux vidéos par semaine?
Ouais.
C'était ça, parce que j'aimais la question. Combien t'en tournais par an? Okay.
Ouais. Ouais.
C'est pour ça de dire, moi, je fais toujours ce rappel-là, c'est dire que la création de contenu, c'est un sacré travail. Et par ailleurs, comme t'es en micro-entreprise, tu ne comptes pas tes heures, de toute façon. C'est vraiment la chose du métier passion. Alors, je sais que toi, tu dis, je ne le vis pas comme un travail. Oui, c'est ce qu'on dit pour un métier passion. Mais pour rappeler à l'auditeur qu'il y a quand même beaucoup de boulot derrière. Comment tu vois, parce qu'on en voit que t'es en pleine ascension et ça, c'est chouette. Comment tu vois ton avenir?
J'ai envie de continuer les vidéos, ça c'est sûr. J'aimerais développer d'autres visites, plein de projets. Il va falloir essayer de me canaliser, là, je pense. Parce que j'ai plein de projets de visite à thème. J'aimerais attirer les familles, sortir en famille. Et du coup, parce que soit on fait des visites, on s'adresse qu'aux enfants, soit on fait des visites, on s'adresse qu'aux adultes. Et c'est très difficile dans un même groupe de parler aux deux. Donc, j'aimerais bien m'adresser de plus en plus aux familles. Continuer les vidéos, voyager, proposer d'autres contenus. Et puis, l'idéal, c'est que Pierre me rejoigne dans l'entreprise.
Oui. En fait, c'est quelque chose que je me disais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, parce que toi, par exemple, ta page s'appelle, maintenant, c'est Roman et Florian de l'Instant Voyage. Et je me suis dit, mais il prend tellement de place, pourquoi ça serait pas Hello et Pierre à un moment donné?
C'est un avis
strictement personnel. Hein. Ce podcast, c'est une conversation, mais ça serait une solution vachement chouette, quoi.
Ça va finir comme ça, mais comme tu le sais, je suis arrivée dans ce métier après un burn-out. Ouais. Et je pense que j'avais perdu confiance en moi. J'avais aussi envie de me prouver que je suis une femme, que monter ma boîte et m'en sortir, etc. Et j'avais besoin de le faire seule. Après, Pierre est arrivé et aujourd'hui, c'est génial et avec plaisir. Mais, et sur le moment, moi, j'aime.
Mais pour revenir un peu sur ce qu'on disait en préambule, parce que c'est quand même important, on a dit, il y a beaucoup de civilisations. Oui, ça, sans doute aussi. Il y a beaucoup de sollicitations. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Et de civilisations aussi, sans doute. Mais est-ce que, en plus, comme tu as dit, tu as fait un burn-out, et comment finalement on arrive à se trouver du temps pour soi, même pour sa vie de couple personnelle, est-ce qu'on arrive en fait à se trouver du temps pour soi, pour souffler?
Oui, je pense déjà que le burn-out, c'est un bon moyen de tester ses limites. C'est un bon moyen. C'est pas agréable, mais on apprend d'un burn-out.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, je refuse des projets si je sens que émotionnellement, j'en suis pas encore capable ou j'essaie de doser mon emploi du temps. Ça m'arrive de fermer des créneaux de visite parce que je me sens fatiguée. Je suis dans une gestion de ma fatigue et de mes émotions un peu tout le temps. Voilà. J'espère pouvoir me lancer vraiment à 100%, mais je sais que ça fragilise et que j'ai besoin
de refuser des choses. Je pense que c'est important, en fait, de vraiment, surtout que c'est quelque chose dont on prend conscience spécifiquement dans ces années-là, j'ai l'impression, puisque en fait, le burn-out, c'était pas forcément quelque chose, avant, il y a quelques années, on n'en parlait pas forcément, ou du moins, c'était un tabou. Et je voulais te demander, celui-là, est-ce que aujourd'hui, tu vas bien? Je dirais que tu vas bien.
Oui, je vais bien, même si émotionnellement, comme je te disais, parfois je peux pas encaisser une charge de travail que n'importe qui. Mais dans l'ensemble, ça va super et je suis super fière de moi, donc j'ai gagné en confiance en moi et ça c'est super. Ouais.
Florian, peut-être avant d'aborder le sujet du handicap,
peux-tu nous parler comment se passent tes visites guidées et qu'il y a combien de temps de délai pour pouvoir faire une visite avec toi?
Une visite guidée avec moi, c'est 1h30. Sur des visites privées, je peux faire plus ou je peux faire moins. Mais je trouvais qu'une heure et demie, c'est fait pour un temps de concentration. C'était une bonne durée. Et du coup, passer une visite globale de la ville de Rouen, de ses prémices à l'époque contemporaine. Et donc, on démarre ici, à Public. On démarre, place de la Pucelle. Et on s'arrête à la Basse-Ciel Saint-Ouen. Et donc, forcément, on passe dans le centre-ville, dans les plus emblématiques.
Et on peut te réserver où? Tu peux pas me placer.
Oui, et on peut me réserver sur Get Your Guide, TripAdvisor. Le lien, il est dans la bio Insta.
On mettra tout ça, de toute façon, sur les pages du podcast.
Et par rapport aux sollicitations, il y a aussi 1, 2, 3, 4, aux sollicitations. Par rapport aux sollicitations que tu as eues, est-ce que tu souhaites travailler avec d'autres créateurs de contenu, avec la région, avec des offices de tourisme?
J'ai pas eu ce type de demande. Bizarrement, j'ai eu beaucoup de demandes, je vais dire commerciales, mais c'est pas le terme, mais beaucoup d'entreprises ou un peu moins de la part des institutions parce que je sais pas, peut-être que c'est tellement différent ce que je propose que de ce qu'ils font que je sais pas. Mais moi, je suis ouverte à tout.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur tes prochaines vidéos dans les mois à venir ou...
J'ai les deux prochaines, en fait, là, si vous voulez.
Allez.
En fait, je vais pas vous mentir, on est un peu à flux tendu.
Ouais.
Donc, en fait, j'ai que les deux prochaines en tête.
Vous n'avez pas un planning
Non, et puis je suis même moi en train d'apprendre quelque chose là sur la réponse. Donc, alors, première vidéo, j'aimerais parler de musée des Beaux-Arts, parce que Pierre m'a demandé pourquoi il y a des musées des Beaux-Arts dans toutes les villes.
C'est vrai.
Donc, ça sera un sujet de vidéo. Deuxième vidéo, c'est qu'il y a sur une des portes de l'église Saint-Maclou deux Amérindiennes qui sont représentées.
Ah oui.
qu'est-ce qu'elles font là. Donc, je vais raconter tout ça. Et donc là, je suis en train de l'apprendre pour le coup, mais rive gauche, il y avait une manufacture de verrerie qui a travaillé du verre pour des expériences que Blaise Pascal aurait menées à Rouen. J'ai découvert ça hier, je vais foncer sur cette anecdote. Voilà. Donc, et il y a même une plaque à l'entrée du centre commercial Saint-Sever.
L'occasion d'en apprendre toujours plus en ta compagnie et celle de Pierre.
Donc, tu nous parlais que tu as fait tes premières visites sur l'Armada.
Oui.
Pour la prochaine Armada, est-ce qu'il y a encore des visites d'actualité ou pas du tout?
J'ai même pas réfléchi. Alors, je dis qu'on est à flux tendu, c'est-à-dire qu'on vit un peu au jour le jour. D'accord. Mais, ouais.
Okay. Troisième et dernière partie de cet entretien, qui concerne plus spécifiquement les questions d'accessibilité aux monuments et aux particuliers aux monuments historiques. Je dis pourquoi, en fait, les monuments historiques, parce que ce sont eux qui sont en général les plus visités. Et moi, j'ai cette anecdote que je raconte tout le temps. C'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a environ 4 ans. Parce que, bon, c'est pas moi, mais j'avais jamais visité le Panthéon à ce moment-là à Paris. Et je me suis dit, je vais aller le visiter. Sauf que je m'aperçois que bon, je marche, mais les escaliers sans rampe, c'est même pas la peine, quoi. Et ben, en fait, je me perçois qu'il faut que je sois aidé de partout. Parce que des marches sans rampe au Panthéon, il n'y a que ça pour descendre. Et en particulier, c'était très compliqué, mais je me suis dit, mince, un des monuments les plus connus et les plus visités de France, il est toujours pas adapté à minima aux personnes en situation de handicap. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, elle est assez simple. On dit souvent qu'il n'est pas possible d'adapter des monuments, en tout cas des monuments historiques, aux personnes en situation de handicap par crainte, je cite, de les dénaturer. Quel est ton point de vue?
Je suis un peu partagée parce que j'arrive à comprendre cet argument de dénaturer les monuments. J'arrive à concevoir cette idée, mais j'arrive pas à concevoir l'idée qu'on puisse rendre inaccessible un bâtiment à toute la population. Donc, je suis un peu tiraillée parce que j'ai pas de solution, en fait, à cette problématique. Mais pour avoir bossé dans d'autres entreprises, je me rends compte que parfois, l'accessibilité, c'est un manque de formation du personnel. Et que dès qu'on a une personne en situation de handicap qui arrive, il y a une espèce de panique à bord. On fait quoi, etc. Et des fois, ne serait-ce que former ses équipes à installer une rampe pour rentrer sur les premières marches, je trouve que c'est un premier pas pour l'accessibilité à certains lieux.
En fait, tu me tends une super perche, parce que en fait, c'est un peu la suite de la question que j'allais te poser. C'est justement quand on parle. Parce que finalement, au risque de te surprendre, je comprends à minima, on va dire, cette sorte de tiraillement. Je dis à minima parce que par contre, ce que je comprends moins, c'est pourquoi pourrait-on pas, ça existe dans certains lieux trop peu, une grande rampe amovible.
Oui, voilà. Exactement.
Donc on peut retirer, voilà, pour être plus précis. Et pourquoi en fait ce n'est pas fait? Parce que pour moi, ce n'est pas très cher.
Et c'est temporaire, ça dénature.
C'est temporaire et que je ne vois pas en quoi ça dénaturerait un bâtiment.
Je suis entièrement d'accord avec toi et j'en parlais avec Pierre du coup. On se disait que toutes les situations où il y a eu ces efforts de fait d'accessibilité, c'est à chaque fois où j'ai travaillé dans des lieux commerciaux. Ouais. Et bizarrement, quand il y a un enjeu financier derrière, c'est-à-dire il faut vendre, et ben là, on va tout faire pour rendre le lieu accessible à tout le monde. Et il n'y a pas cette ambition-là. La culture n'a pas pour but de générer de l'argent, même si ça en fait également. Hein. Et finalement, tout est plus lent à se mettre en face. Et ça...
Est-ce que tu dirais que la culture est accessible à tous?
Non. Et je ne parle pas que de handicap quand je dis ça. Je trouve que parfois, la culture peut dégager quelque chose de très élitiste et, en ce sens, ferme des portes à tous.
T'as un exemple?
Oui. j'ai des jeunes avec qui j'ai travaillé dans le cadre de l'organisation d'un festival. Bref, des jeunes qui sont pas du tout tirés par les milieux culturels, etc., parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce que ça paraît être un lieu pour les gens très instruits et parce que ne serait-ce que franchir la porte, en fait, il y a une espèce de je sors de ma zone de confort qui est très difficile pour eux et donc, Je trouve que la culture ne fait pas d'effort pour rendre les choses simples, faciles.
Comment tu dirais que ça a évolué? Ça a été de mal en pis, si je peux dire, ou ça a toujours été, ou comment tu dirais?
Je suis quand même une petite jeune dans le milieu de la culture, tu vois. Ça fait que 2 ans que je suis dedans. J'ai pas un recul énorme. Je trouve qu'il y a toujours des ambitions politiques d'accessibilité à tous, pour tous, du droit à la culture. Et dans les faits, j'ai du mal à saisir ce qui est réellement fait. Après, il y a quand même des choses qui sont faites. Attention, le tableau n'est pas tout noir.
Oui.
Mais on pourrait...
Après, on pourrait avoir la discussion des heures, mais là, on n'aura pas ce temps-là. Mais j'ai toujours trouvé, pour faire très bref, et pardon de ne pas pouvoir développer, mais j'ai toujours, en ce qui est considéré qu'en matière de budget, en matière de l'État et du politique, la culture a toujours été le parent et extrêmement pauvre, malheureusement. Et la question que je voulais te poser, est-ce que toi, tu as déjà eu, est-ce que tu as de temps en temps un public en situation de handicap qui vient tes visites, et comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils arrivent à les suivre correctement? Quelles sont les difficultés auxquelles tu as pu être confronté, si c'est le cas?
Ouais. Déjà, en plus, je voulais te raconter quelque chose que j'ai oublié de te raconter. C'est que moi, cette question-là, je me l'étais pas posée avant. Et finalement, quand j'ai créé ma visite guidée, le site internet m'a demandé, votre visite est-elle accessible aux personnes en situation de handicap? Et là, je me suis posé la question, bah ouais, c'est vrai, est-ce qu'elle est accessible? Et bah, du coup, j'ai refait le tour de ma visite guidée avec la conscience de, et si là, j'ai un fauteuil roulant, qu'est-ce que je fais, etc. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un deuxième regard.
Ouais.
Je me suis rendu compte que c'était pas si facile, qu'il n'y avait pas tant de bancs que ça, finalement, pour faire des pauses, si des personnes sont fatiguées, ont des béquilles ou autres. Et donc, j'ai essayé d'adapter le parcours qui soit le plus simple, mais j'ai quand même pas beaucoup de personnes qui réservent.
Moyen, je pense que c'est il faut le préciser par honnêteté intellectuelle, même si on pourra me le reprocher, mais on pourrait, parce que c'est la réalité, de toute façon, c'est la réalité factuelle. Il y a une volonté publique, de politique publique, de plusieurs maires de supprimer des bancs, en fait, partout, dans toutes les villes, que ce soit à Rouen, à Paris, à Lyon, les rapports le montrent. Il y a une diminution ces 15 dernières années importante du nombre de bancs publics, et je le dis à titre personnel parce que c'est pénible pour moi et un certain nombre de personnes, mais je le dis là parce qu'il faut être honnête intellectuellement avec les gens, et que ce ne sont pas toujours des choses qui sont simples. Alors, je ne fais pas de politique, c'est indépendamment, c'est mené par plusieurs maires en France qui soient écolos, communistes, de droite, ils font tous la même chose, et en fait, ça n'a rien à voir avec quelque chose avec l'appartenance à un mouvement. Pareil, je ne développerai pas, de toute façon, chacun ira confirmer mais dire en allant regarder les chiffres, mais c'est comme ça. Mais de toute façon, je te l'ai dit hors propos, je viendrai avec plaisir à une de tes visites, de toute façon. Donc,
je t'accueillerai avec plaisir.
Et puis, tu passeras un test pour savoir si c'est...
J'ai peur, tu as l'air... Non, non, mais au-delà de ça, je reçois de plus en plus de messages parce qu'il y a des gens qui sont alités, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux et qui n'ont pas vu Rouen depuis super longtemps.
Ouais.
Et qui m'envoient des messages comme quoi ils sont super contents. Et je dis à Pierre, est-ce qu'on lancerait pas un live Twitch, visite guidée, pour me dire, tous ces gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux, puissent quand même visiter la ville et avoir accessible...
On en parlait tout à l'heure.
Ça pourrait être une très bonne idée
par rapport à tes vidéos qui font créer de plus en plus. Ce qu'on disait avec Brian, c'est que les gens qui ne peuvent pas voyager ou qui sont alités, ils voyagent à travers tes vidéos. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool.
J'y ai pensé.
Même moi, je veux dire, parce que ma mère a été quasi alitée pendant un mois. Et elle habite à Rouen, mais elle pouvait pas sortir. Donc, du coup, j'avais montré tes vidéos. Elle dit, c'est vachement chouette. C'est vachement, en fait, c'est vachement réceptif. Tu fais avec Pierre, vous faites du bien aux gens, je pense, au deuxième moral, et ça, c'est positif. Dans un contexte qu'on a vachement bien besoin. Faut être honnête, tu n'es pas le soleil, mais tu contribues à ton rôle.
C'est gentil,
à merveille. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie infiniment. Merci à toi.
Merci à vous.
Je te souhaite une très bonne après-midi.
Merci.
C'est tout pour cette fois, j'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À la prochaine, les Normands!